Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Encore une fusillade à Sevran. 2 morts hier soir, 3 victimes par arme à feu en 48 heures seulement dans cette ville de banlieue parisienne, vraisemblablement sur fond de trafic de drogue.
Et justement, juste après votre journal, Quentin, on sera en direct avec le témoin du jour. Il s'appelle Sullivan Jousse, il est éducateur sportif, élu à la mairie de Sevran. Il habite à quelques mètres du lieu.
Le tapis rouge déployé, vous l'entendrez, pour le président chinois Xi Jinping en visite d'État pour 2 jours en France. Et un parterre de personnalités mercredi à Marseille pour porter la flamme olympique. Les Marseillais, par exemple, Basile Boli et Eric Dimeco.
Bilan donc de 3 morts en 48 heures à Sevran.
Oui, 2 hommes de 31 et 35 ans ont été tués par balle en début de soirée, donc dans cette ville de banlieue parisienne, qui avait déjà été le théâtre d'une fusillade mortelle, c'était vendredi. Sans doute sur fond de trafic de drogue, ça s'est passé près d'un parc avec des jeux pour enfants, d'où l'inquiétude à Sevran. Moi, Baker Gagné.
Dans les rues de Sevran, l'atmosphère est pesante. Léana, une jeune femme, regagne son domicile, le pas pressé.
C'est compliqué de rentrer en étant sereine. Après, on baisse la tête et on fait comme si de rien n'était, quoi.
À quelques centaines de mètres du lieu où 2 hommes ont été abattus hier, la crainte de Marie, c'est d'être au mauvais endroit, au mauvais moment.
Qui dit fusillade, dit balle perdue. Et donc, c'est plutôt ça qui est inquiétant.
D'autant que Marie est la maman de 2 enfants de 6 et 11 ans. Hier, la fusillade s'est déroulée juste à côté d'un parc à jeux.
On aspire quand même à la sécurité, à pouvoir sortir de chez nous à différents moments de la journée sans avoir peur de tomber dans une rixe ou autre chose.
Fin mars, une opération Place Nette contre le trafic de drogue a eu lieu à Sevran. Insuffisant pour Reda Bellage, porte-parole du syndicat Unité Police en Ile-de-France.
Dès qu'on finit les places nettes, la problématique, c'est comme la mauvaise herbe. Ça repousse tout de suite. Donc, il faut vraiment une solution pérenne. Il faut des places nettes beaucoup plus régulières. En plus de ça, il n'y a pas mieux que la présence policière tous les jours, toutes les heures.
Jusqu'à 200 fonctionnaires de police seront mobilisés dans le secteur ces prochaines nuits.
Et la sécurité, ce sera un des nombreux thèmes abordés ce matin avec Marine Le Pen, première invitée politique du nouveau rendez-vous ce matin sur RMC et BFM TV, le face-à-face et vous, c'est comme ça que ça s'appelle, de 8h10 jusqu'à 9h, avec vos questions que vous allez poser, vous, au 32-16 pour la patronne du Rassemblement National, parti qui caracole en tête des intentions de vote pour les élections européennes dans 5 semaines. La sécurité, le gouvernement en parle aussi et veut sévir, et cette fois c'est le ministre du Logement qui se dit favorable à expulser les familles de délinquants lorsqu'elles bénéficient d'un logement social. Sébastien Krebs, du service politique à RMC. Il est d'ailleurs question d'ajouter une mesure en sens dans le projet de loi qui sera bientôt examiné au Parlement.
Oui, ce que veut le ministre du Logement, c'est pouvoir examiner, au-delà de leurs revenus, le comportement des familles qui bénéficient d'un logement social et faciliter leur expulsion en cas d'incivilité, de crime ou de délit. Il est légitime, estime Guillaume Kasbarian, de vérifier que ses locataires respectent les règles de la République. Son entourage explique que le Parlement y travaille. En clair, le gouvernement laisse l'initiative aux députés et sénateurs, mais soutiendra leurs amendements. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déjà souhaité, après les émeutes l'été dernier, pouvoir expulser les familles des jeunes impliqués, mais difficile à mettre en place. Aujourd'hui, il faut la décision d'un juge, après une longue procédure et sur des motifs limités, comme les loyers impayés. Par exemple, plusieurs associations avaient déjà dénoncé une forme de punition collective, faire payer à toute la famille l'acte d'un seul de ses membres.
Début aujourd'hui des assises de l'antisémitisme en France sur fond de montée des actes antisémites et du ressenti aussi d'antisémitisme dans le pays depuis les attaques du 7 octobre. Et après 7 mois de guerre au Proche-Orient, les discussions pour une trêve continuent à Gaza, mais les deux camps sont inflexibles. Le Hamas exige un cessez-le-feu sur la durée, un cessez-le-feu définitif. Hors de question, a répondu hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Je le dis aux dirigeants du monde entier, aucune pression, aucune décision de n'importe quelle instance internationale n'empêchera Israël de se défendre. Si Israël doit se battre seul, Israël se battra seul.
Et c'est dans ce contexte géopolitique que le président de la Chine, Xi Jinping, entame une visite d'État de 2 jours en France. C'est sa première depuis le Covid. Il est arrivé hier soir à Orly et Cyprien Pezeril. Vous nous dites qu'Emmanuel Macron lui déroule le tapis rouge.
Entre une cérémonie d'accueil en grande pompe et un dîner d'État fastueux, les deux présidents vont s'entretenir aujourd'hui et poursuivront demain dans les Pyrénées sur les terres familiales d'Emmanuel Macron pour créer, explique l'Élysée, le cadre d'un échange franc et amical. Pendant cette visite, la France espère convaincre Xi Jinping de faire pression sur Vladimir Poutine pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Ce n'est pas l'intérêt de la Chine d'avoir une Russie déstabilisatrice de l'ordre international, assure Emmanuel Macron. Pourtant, la Chine aide la Russie à se fournir en munitions. Autre point de tension, les échanges commerciaux. Le président plaide pour un meilleur accès au marché chinois. Nous serons heureux d'avoir davantage de produits agricoles et cosmétiques français, répond dans une tribune Xi Jinping. Enfin, sur les droits de l'homme, Emmanuel Macron ne cache pas des désaccords, mais assure qu'ils ne seront évoqués que derrière des portes closes.
Et c'est l'autre événement de la semaine, avec une sécurité là aussi digne d'un chef d'État. Mercredi, l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, la flamme olympique qui se trouve actuellement sur le Bellem en Méditerranée, avec, on le sait maintenant, de nombreuses personnalités marseillaises pour porter la torche, hein, Kevin Morand.
Qui dit cité phocéenne dit football. Boli, Dimeco, Papin, Drogba, des légendes de l'OM porteront la flamme, tout comme l'ancienne joueuse des Bleus, originaire de Marseille, Louisa Nessib, deux participations au JO à son actif.
Je n'ai pas encore eu de briefing concernant le déroulement. Je n'ai absolument aucune pression. Je suis juste excitée et heureuse de faire partie de cette journée si spéciale pour le sport, pour le pays et pour la ville de Marseille.
Le stade Vélodrome sera un passage incontournable. Le skateur Vincent Materon portera la flamme non loin de là.
D'être relayeur parmi tous les autres athlètes, c'est grave plaisant et je suis content de faire ça à la maison. Porter la flamme à Marseille, c'est quelque chose que tu peux faire qu'une fois dans ta vie, surtout à côté du Vélodrome. Moi qui adore le foot, c'est parfait.
Un moment qui s'annonce inoubliable, surtout pour le champion olympique 2016 de canoë, Denis Gargaud, même s'il ne participera pas aux Jeux cette année.
C'est un honneur pour moi que de participer à cette fête. Je suis même fier de dire que j'ai souhaité la porter parce que c'est un symbole qui est fort. C'est là où le sport a pris naissance chez moi. C'est un endroit qui est très important. J'aurais pas aimé la porter à Châteauroux, c'est sûr.
La flamme passera également entre les mains d'artistes qui font la renommée de Marseille, comme le rappeur Soprano ou l'humoriste Redouane Bougueraba.
Oui, Marseille où continue la grève des éboueurs. C'est le septième jour, hein, ce lundi. Dans 9 arrondissements, des revendications sur la pénibilité et la gestion des tournées, notamment la métropole demande au préfet de procéder à des réquisitions pour ramasser les poubelles. Toulouse est de retour en finale de Coupe d'Europe de rugby. Les Toulousains tenteront de décrocher une sixième étoile dans 3 semaines contre les Irlandais du Leinster. Ça se jouera à Londres, eux qui se sont qualifiés en battant les Anglais des Harlequins 38-26. C'était hier dans un stadium de Toulouse archi plein et archi euphorique, Wilfried Templier.
Oui, ils étaient quasiment 33 000 au stadium à célébrer leur héros. Et à l'issue du match, le manager Hugo Mola rendait hommage au public toulousain.
C'est jamais rien de jouer une demi-finale à domicile, et particulièrement dans cette enceinte et avec ce public-là. Donc merci encore à tous nos supporters. Et puis ne boudons pas notre plaisir de jouer une finale de Coupe d'Europe dans 3 semaines.
Avant, la bataille a été immense face aux Harlequins. Toulouse, qui menait 31-12 à la mi-temps, a vu les Anglais revenir à 5 points avant de surprendre, comme le dit le capitaine Antoine Dupont.
Quand ils ont le momentum, ils sont durs à arrêter. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a su rebondir. On ne s'est pas démobilisé, même après avoir eu une période plus compliquée.
Maintenant, place aux Irlandais du Leinster qui ont éliminé les Toulousains en demi-finale lors des 2 dernières saisons. Peut-être un compte à régler ? Question posée au 3e ligne international, François Cross.
Il n'y a pas de compte à régler, mais en effet, voilà, c'est une finale et peu importe qui est en face. Mais le Leinster aussi a eu pas mal de déconvenues sur les années précédentes, donc forcément, ils seront animés aussi par la même chose que nous. À nous d'être meilleurs qu'eux sur ce match-là. C'est
La Rochelle, sacrée l'an passé et il y a 2 ans face à ces mêmes Irlandais du Leinster, a montré la voie. Toulouse sait ce qu'il a à faire pour aller chercher un 6e titre européen.
Et puis veille de match pour le Paris Saint-Germain en football. Paris qui jouera demain sa demi-finale retour de Ligue des Champions pour remonter un but face à Dortmund. Vous vous souvenez de la défaite la semaine dernière, 1-0 en Allemagne. Je suis sûr qu'on va aller en finale, disait hier soir Kylian Mbappé. Plutôt confiant, donc visiblement.
C'était le journal de Quentin Vinet. Et vous êtes nombreux à nous appeler au 32-16 ou à nous envoyer vos questions pour Marine Le Pen. Il y a Olivier qui est là et qui nous appelle de Lyon. Salut,
oui,
Olivier.
Oui,
vous êtes artisan.
Oui, exactement.
Vous poseriez quoi comme question à Marine Le Pen?
Moi, c'est une question d'ordre donc professionnel. Ouais. Quand est-ce qu'elle veut vraiment réduire, on va dire, les charges patronales et salariales, quoi, tout simplement, parce que les effets d'annonce, ça va bien, mais il y a un moment que l'on sache justement sur quelle direction c'est imputé. Et puis parce que comme dirait un certain Emmanuel, le fric de dingue, en fait, on voit que ça part, mais en fait, il y a jamais rien qui va, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement ça.
Vous avez des salariés, Olivier ?
Oui, j'ai trois salariés. J'ai trois salariés et quand je regarde les prélèvements, c'est juste hallucinant quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, que ça soit, je veux dire en général, hein, que ça soit en termes de charges patronales et salariales, que ça soit les petits artisans, les commerçants, mais il y a un moment, faut vraiment faire quelque chose. Je ne dis pas de pas payer, je dis simplement d'éclaircir la chose, tout simplement.
D'éclaircir la chose et Olivier, bah, oui, coup, et puis, juste et puis, précisez-moi et... quand vous dites artisan, vous êtes dans quel domaine?
Bâtiment et en même temps est-ce qu'il n'aurait pas possibilité de centraliser les choses tout ce qui est vraiment caisse parce que franchement quand on dit simplification c'est juste hallucinant et c'est à mourir de rire. Moi je vais vous prendre un petit exemple. Il y a une quinzaine de jours, j'ai une secrétaire qui vient tous les mercredis, j'étais à côté d'elle en train de faire des devis, elle s'occupait vraiment de la paperasse pure et dure et pendant 1h15, elle a été au téléphone, elle s'occupait d'autre chose et le téléphone sonnait en attendant que la caisse du j'ai payé lui répondre quoi. C'est des choses, c'est des choses juste hallucinantes.
Une heure quinze à attendre avec le disque qui vous dit on va prendre votre appel mais personne au bout du fil quoi.
Pendant 1h15 et ça c'est tout et ça c'est quasiment tous les organismes. Je sais très bien c'est peut-être pas évident mais là quand on vous parle de simplification administrative c'est juste à mourir de rire tout ça. C'est les petites choses qui font que ça pourrit la vie d'une entreprise tout simplement.
Merci beaucoup, merci Olivier, c'est très clair. Merci d'avoir posé votre question sur tous les points. Marine Le Pen répondra tout à l'heure, donc rendez-vous 8h10, 9h. Merci Olivier, 7h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, on reviendra sur ce qui s'est passé à Sevran. Sevran, trois morts en 48 heures. L'un des élus de la ville, qui est lui-même un des accompagnants des jeunes et qui vit à quelques mètres seulement du lieu de la fusillade, sera le témoin du jour dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Et on part à Sevran, où il y a eu trois morts en 48 heures. Week-end sanglant, c'est près de Paris, en Seine-Saint-Denis, du jamais vu depuis des années. Et on en parle avec vous, Sullivan Jouz, bonjour. Vous êtes élu d'opposition au conseil municipal de Sevran. Vous êtes éducateur sportif. La fusillade qui a fait 2 morts hier, après la première qui avait déjà fait 1 mort à peine 48 heures plus tôt, elle a eu lieu juste à côté de chez vous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, ce que vous en dites, ce qu'en disent les habitants?
Alors tout d'abord, j'aimerais ne pas créer en fait de lien et d'amalgame entre les deux fusillades qui se sont passées certes dans un laps de temps très rapproché sur ce vent, mais qui de prime abord et d'après les premiers éléments que nous pouvons récolter n'ont aucun lien l'une avec l'autre.
Donc, en effet, c'est juste une concomitance de temps, mais dans un sens, j'ai envie de vous dire, c'est pire. Ça veut dire qu'il y a 1000 différentes points qui peuvent amener à ce genre de choses et que ce n'est pas l'une même qui a entraîné l'autre. C'est deux affaires différentes.
Exactement, et c'est pour ça que nous disons que nous, de toute façon, vous savez, ce genre de problématiques sont un petit peu comme des métastases qui sont provoquées par le cancer de la misère. Et aujourd'hui, mon engagement politique au sein de cette ville de Sevran, dans un premier temps, et si vous voulez, la reprise du flambeau que nous a légué Victor Hugo dans sa volonté, dans sa détermination même, je dirais, à vouloir détruire la misère, vous savez. À l'époque, Victor Hugo a tenu un discours historique très fort sur sa volonté à détruire la misère. Il l'a tenu devant qui ? Devant la représentation nationale, c'est-à-dire les députés de la nation française, porte-parole du peuple français, parce que ce sont eux qui sont censés avoir les solutions pour détruire cette misère et non pas les gens qui vivent au quotidien.
Je veux bien, Sullivan Jouz, mais en l'occurrence, c'est un règlement de compte. Vous estimez qu'ils ne sont pas coupables éventuellement ceux qui auraient ils sont plus victimes, si je vous entends?
Alors je souhaite qu'on fasse preuve d'une dignité absolue envers ces victimes, parce qu'aujourd'hui nous avons 2 personnes supplémentaires qui sont des victimes d'un assassinat barbare.
Voilà, parce que vous dites... Je vais préciser les choses très, très clairement, Sullivan Jouz. Ce que je voulais juste vous demander de préciser, c'est que quand vous me dites qu'ils sont victimes de la misère, ils sont quand même d'abord victimes de trafiquants de drogue, semble-t-il, puisque c'est la première piste. Hein.
Alors, ce que je souhaite apporter comme précision, c'est que ces jeunes étaient libres. Ils étaient dans la rue, ils n'étaient pas recherchés par les services de police. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui nous souhaiterions mettre en avant un prétendu casier judiciaire ou un lien alors qu'ils étaient là, dans le quartier, et quand bien même, à un moment donné de leur vie, ils auraient pu peut-être avoir une certaine déviance au respect du principe républicain. Comme on dit, branche tordue fait flamme droite. Et je crois en la flamme républicaine pour que les gens puissent se réinsérer dans la société.
Il y a en effet été précisé, et je voudrais juste que les gens comprennent bien à quoi vous faites référence. La police a précisé que les deux victimes sont âgées de 33 et 35 ans, qu'ils étaient en effet connus pour violence et trafic de stupéfiants. Ça, c'est ce que les sources policières nous disent, et que le ou les suspects ont pris la fuite. Mais j'ai quand même du mal à comprendre votre réaction, Sullivan Jousse. Pour vous, ça n'indique rien. Il ne faudrait même pas le dire qu'ils ont été déjà connus par la police pour violence et trafic de drogue.
Vous savez, il y a plein de personnes qui sont sur les plateaux télé, qui ont des casiers judiciaires longs comme mon bras, et ça ne dérange pas forcément énormément de monde.
Enfin, ils se retrouvent peut-être pas visés par des tirs de Kalachnikov.
Et lorsque ces mêmes personnes décèdent, ce n'est pas la première chose que l'on met en avant sur les plateaux télé pour essayer de culpabiliser, encore une fois, des victimes d'un assassinat. Parce qu'il faut appeler un chat, c'est un assassinat.
Tout à fait, mais assassinat, on cherche, quand on est policier, quand on est dans la justice, on cherche un mobile. J'ai du mal à comprendre votre logique.
Alors, je vous donne un autre exemple. Vous savez, sur la première fusillade qu'il y a eu à Sevran, tout de suite, les personnes se sont empressées de dire, sans respecter les principes fondamentaux même de notre organe judiciaire, qui ne se prononce qu'une fois avoir récolté la matérialité des faits, que c'était lié au trafic de drogue. Je peux vous assurer, parce que je suis un élu de terrain très proche de la population, et que le maire ou les policiers ou les journalistes qui connaîtraient peut-être mieux le terrain de Sevran que moi-même viennent me le dire, le jeune qui est décédé au Beaudot n'avait rien à voir avec. Il avait sa société de démolition. C'était quelqu'un qui travaillait, et une autre des victimes, qui j'espère va se rétablir, était même un agent de la ville de Sevran, gardien dans un gymnase.
Puisque je précise effectivement qu'il y a eu plusieurs victimes collatérales qui sont aujourd'hui, parfois pour certaines d'entre elles, très grièvement blessées et dont le pronostic vital est engagé.
Ce que je veux vous dire, c'est que il y a un climat de misère sociale où les responsables politiques depuis des décennies n'ont pas mis les moyens humains et sociaux nécessaires pour offrir à notre jeunesse une exposition différente qui leur permettrait d'avoir une sensibilité culturelle, artistique, sociale différente qui pourrait les sortir d'un certain obscurantisme. Et c'est pour ça que, vous savez, Victor Hugo disait que pour lutter contre la misère, il faut utiliser le droit. Et qualifier ce droit comme le granit contre lequel viennent s'échouer les iniquités, les hypocrisies. On pourrait parler des mauvais comportements, je vous renverrai à son discours pour la suite. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce droit, de ces hypocrisies, moi je pense aujourd'hui que cette excuse, entre guillemets, qui est prise dans les médias, a tout le temps et systématiquement pointé sans éléments concordants et sans les indices graves et concordants du trafic de drogue. C'est un petit peu l'arbre de l'hypocrisie qui cache une forêt d'insuffisance.
J'ai bien compris, Sullivan Jousse. Je comprends parfaitement que vous ouvriez aussi à d'autres questions, mais j'ai quand même du mal avec votre postulat de départ, qui serait qu'il ne faudrait même pas mentionner que les deux victimes ont déjà été connues, ont eu affaire à la police pour des questions de violence, pour des questions de trafic de stupéfiants, ce qui quand même est une des pistes, j'imagine, que vont remonter aussi les enquêteurs. Mais on l'a bien entendu, Sullivan Jousse.
C'est le premier élément qu'on met en avant même qu'ils ont été les victimes d'un assassinat barbare. Vous imaginez la priorité là où elle est. Respectons le deuil de ces familles qui viennent de perdre un être cher.
Sullivan Jousse, j'ai bien compris, j'ai parfaitement compris Sullivan Jousse, et je peux vous dire... On vous entend mal, mais Sullivan Jousse, j'ai parfaitement compris ce que vous disiez à l'instant. Je dis juste qu'on ne peut pas pour autant dire carrément qu'on ne mentionnerait pas ce fait qui est l'un des fils que va tirer la police. Vous-même, vous avez parlé d'assassinat. Un assassinat, ça veut dire qu'il y a un mobile, ça veut dire qu'il y a une cible, et que donc ces personnes ne sont pas choisies au hasard. Merci en tout cas d'avoir été ce matin pour réagir, Sullivan Jousse. Je rappelle que vous êtes vous-même élu donc au conseil municipal de Sevran et que vous êtes éducateur sportif. Il est 7h18.
Suivre dans Apolline Matin sur RMC.
L'antisémitisme gagne du terrain. Résultat édifiant d'une vaste étude publiée hier. Je vous donne un chiffre. Plus d'un tiers des 18-24 ans estiment qu'il est normal de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien à Israël. Des assises contre l'antisémitisme ont lieu ce matin. Élie Corsia, qui est le président du consistoire français, y sera. Mais avant cela, il sera l'invité du jour à 7h40 sur RMC. Et dans un instant, on se retrouve pour le 7h20 Apolline Matin.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et on fait une petite parenthèse pour aller dans les coulisses de l'actualité politique avec Hélène Terzian. Bonjour Hélène.
Bonjour Apolline.
Hélène, Marine Le Pen est mon invitée dans moins d'une heure pour le face-à-face et vous, une interview exceptionnelle avec des questions des auditeurs d'RMC. Dans les rangs du RN, Hélène, vous nous dites qu'il y a une question qui fait débat. Est-ce que Jordan Bardella pourrait prendre la place de Marine Le Pen en 2027?
Eh bien, il suffit de tendre le micro aux sympathisants, aux militants du RN pour s'en rendre compte. Une candidature de Jordan Bardella pour 2027, c'est la petite musique qui monte et qui se fait entendre. Même quand les députés RN veulent se boucher les oreilles, eh bien certains n'y échappent pas dans leur circonscription. L'un d'eux me confie que beaucoup d'administrés lui disent « quand même, Bardella, ce serait pas mal ». Alors, de là à aller en réunion de groupe et oser soulever la question « quand même pas », ironise l'élu. Au sein du parti, tous chantent à l'unisson le même refrain, la candidate naturelle, c'est Marine Le Pen, convaincue d'ailleurs du ticket gagnant selon eux, à elle l'Élysée, à lui Matignon. On vante leur complémentarité, elle son expérience, son assise sur un électorat social, lui sa capacité à capter les jeunes et toucher la classe moyenne voire CSP+. Aucune embrouille, insiste un fidèle du parti. Marine ne peut gagner sans lui et lui sans elle. Un autre député RN enfonce quand même le clou. Si à un moment un sondage le donne plus haut qu'elle au second tour, alors il faudra se poser la question.
Et Hélène, il en pense quoi, Jordan Bardella? À lui de 2027.
À chaque fois que la question lui est posée, il esquive. Il ne sait pas, disent ses plus proches. Mais son objectif, c'est d'aller le plus haut possible, nous dit-on. Au fond, Jordan Bardella n'insulte jamais l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il la joue à la loyale. Lorsqu'il confie à la presse qu'après les européennes, la suite sera consacrée à la préparation du pouvoir, c'est pour amener Marine Le Pen à l'Élysée. Il sait ce qu'il lui doit, insiste un député. Un stratège mariniste va jusqu'à surfer sur le registre affectif. C'est comme s'il y allait contre sa mère, façon de couper court à toute ambition mal placée. Il poursuit, et de toute façon, si elle gagne, il sera à Matignon, et c'est déjà considérable. Reste que les projecteurs sont aujourd'hui braqués sur lui, les sondages s'affolent, et la rivalité entre les deux interroge, arrange peut-être le camp présidentiel. Si Bardella est à plus de 30% le 9 juin, dit une ministre, dès le lendemain, ce sera un problème pour Marine Le Pen.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec autour de la table Amélie Rosic, Manu Le Chypre, Arnaud Demange. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Amélie, aujourd'hui, vous aidez l'une de nos auditrices. C'est une salariée du secteur privé. On va parler droit du travail.
Ouais, elle s'appelle Bessence, la cinquantaine. Elle est vendeuse pour une marque de lingerie de luxe. Il y a 9 ans, elle tombe enceinte, une grossesse à risque compte tenu notamment de son âge. Elle continue de travailler, enchaîne les heures supplémentaires jusqu'à ce jour de juin 2015.
J'ai eu un accident de travail, j'étais enceinte de 5 mois. Je me suis retrouvée avec des cartons sur moi. Je suis restée alitée jusqu'à l'accouchement.
Voilà, un accident du travail parce qu'elle rangeait des cartons dans la remise et elle s'est retrouvée tout simplement sous les cartons. Aujourd'hui, son fils a 9 ans et il va très bien, rassurez-vous. Mais elle n'a pas pu reprendre le travail en raison de plusieurs pathologies. Et comme si ça ne suffisait pas, elle rencontre des difficultés avec son employeur pour ses congés payés. C'est pour ça qu'elle nous a écrit, parce qu'elle aimerait pouvoir les avoir, tout simplement.
Parce qu'effectivement, Amélie, la loi a évolué récemment sur ce sujet.
Absolument. Écoutez bien, parce que ça peut vous concerner. Depuis le 24 avril, c'est tout récent, tous les salariés, qu'ils soient en arrêt maladie classique ou professionnel, suite à un accident du travail ou non, cumule des congés payés, c'est comme ça. Et pour les salariés qui étaient déjà en arrêt au moment de l'entrée en vigueur de la loi, on peut remonter jusqu'au 1er décembre 2009, dans la limite de 24 congés payés par an, c'est quand même beaucoup. C'est le cas de Bessence, selon nos calculs, confirmés par une avocate, elle aurait ainsi cumulé 216 jours.
Je veux tout simplement mes droits, le versement de mes congés payés. Je suis triste et je trouve ça vraiment dommage.
Est-ce qu'on peut l'aider et tout simplement à faire respecter la loi?
Alors, c'est ce que nous avons tenté de faire. Nous avons rappelé tout simplement à son employeur la nouvelle législation et ses obligations, mais c'est plus compliqué que prévu. Bessence souhaite donc le versement de ses congés. Son employeur refuse et ne souhaite plus surtout que nous intervenions dans le dossier. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Résultat, elle a fait appel à une avocate et normalement, ça devrait pouvoir se régler via cette aide extérieure. On espère que ça va se résoudre au plus vite et surtout, on vous donnera évidemment de ces nouvelles.
Et on compte sur vous, Amélie. L'actu éco, Manu, les prix à la pompe, l'écart s'est creusé entre les prix du super et ceux du diesel. Pourquoi ?
Bah, figurez-vous qu'il y a encore 3 mois, les prix du samplon 95 et du gazole étaient pratiquement identiques. On était à 1,83€ le litre. Aujourd'hui, le samplon 98 vaut presque 2€, le samplon 95 1,93€ et le gazole 1,75€.
Ah oui, donc là, il y a
seulement. Et oui, ça veut dire que selon les stations, vous avez jusqu'à 15 à 20 centimes le litre d'écart. La première explication, eh bien, c'est l'offre et la demande sur un marché des carburants qui est, rappelons-le, mondialisé. Le pic de la demande de gazole est passé. Comme le diesel est utilisé pour le chauffage au fioul, eh bien, la demande est forte en hiver dans l'hémisphère nord. Mais quand le printemps arrive, eh bien, cette demande a tendance à ralentir. Alors que, au contraire, pour le samplon 95, la demande est quasiment au plus haut parce que on est au début de la célèbre driving season.
La driving season.
Figurez-vous que c'est le début de la période des longs week-ends aux États-Unis.
Nous, on appelait ça printemps, tout simplement. Mais en fait, non, c'est driving.
Oui, c'est
driving
un peu comme le bed rotting.
Ils roulent beaucoup.
Aux États-Unis, on roule beaucoup. Et on roule en samplon 95 la
plupart. C'est dingue, c'est parce que les Américains sont au volant, quoi.
Voilà.
Le bowling, cette
et le résultat, tendance. C'est que sur le marché de Rotterdam, qui est la référence en Europe, il y a à peu près 10 centimes d'écart entre les deux.
Et puis Arnaud Demange qui est là pour nous parler du face-à-face ce matin, invité Marine Le Pen.
Marine Le Pen, invitée exceptionnelle de votre nouveau rendez-vous RMC, le face-à-face et vous. Le face-à-face et vous avec Marine Le Pen.
Avec Marine Le Pen.
Face à Apolline et aux auditeurs, une sorte de face-à-face-à-face. Alors vous allez parler des élections européennes, le RN devrait l'emporter, Jordan Bardella cartonne auprès des jeunes. Après, les jeunes ont toujours porté des Jordan, mais pas au pouvoir. Quoi. C'est là que ça change. Par contre, du côté d'Éric Zemmour, sa liste, elle plafonne à 6% à Musclor. Hein. Ça va pas. Hein. Ce week-end, il était en campagne et il y a une dame, vous avez vu, elle lui a acheté un œuf. Alors, il a tweeté « Voilà le vrai visage de l'extrême gauche. Les groupuscules violents qui veulent notre mort. On ne peut pas vivre dans un pays où les gens n'ont droit de réagir qu'une fois qu'ils sont morts. » Vrai tweet, hein. Alors, Eric.
Qu'une fois qu'ils sont morts.
Eric, si tu peux mourir parce qu'on te jette un œuf, il va falloir faire un peu de muscu. Non, si on vous jette un œuf, vous et moi, même très fort, même cuit dur, normalement, c'est vous qui gagnez. Eric, quand je lis ça, j'ai envie de t'offrir des œufs. T'en bois 4 crus tous les matins, c'est des protéines. Mais si ça se trouve, c'est ça qu'elle voulait faire, la dame. Elle était là. Hé, hey, Schwarzenegger, t'as l'air carencé, attrape. Et après, il a tapé la jeteuse d'œufs. Ça, c'est le proverbe. Qui prend un œuf, tape une meuf. Mais c'est naze. C'est naze comme réaction. Emmanuel Macron aussi, il avait pris un œuf. Il n'a pas flanqué une droite au coupable. Alors qu'il fait de la boxe en plus. Quand tu penses qu'Éric Zemmour, il passe son temps à se caresser les tétons comme ça sur les chevaliers qui partaient faire des croisades avec 50 kilos de ferraille, des épées d'une demi-tonne. À l'époque, les hommes étaient des hommes. Tu lui jettes un œuf. Au secours ! À l'assassin ! À l'assassin ! Donc il y aura plein d'autres choses à demander à Marine Le Pen. Mais va-t-elle revenir sur cette histoire ? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à 8h10.
À 8h10.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, on se retrouve à 8h20. Il est 7h28 sur AMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Information RMC ce matin, plus de 3350 enfants forcés de rester dans leur famille malgré des ordonnances de placement. La faute au manque de places en famille d'accueil. Le président chinois en France, occasion de célébrer 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, mais aussi tenter d'apaiser de fortes tensions commerciales avec l'Europe. Et puis l'inquiétude à Marseille, à 2 jours de l'arrivée de la flamme olympique, une grève des éboueurs crée le désordre dans la ville. La métropole réclame la réquisition des agents de collecte.
De 3350 enfants qui seraient en danger par manque de place en famille d'accueil.
Et c'est une information que vous révèle RMC ce matin. Une semaine après le début d'une commission d'enquête sur les manquements de politique de protection de l'enfance, une étude du syndicat de la magistrature dresse la cartographie des placements ordonnés par la justice et non exécutés au nombre de 3350 en novembre dernier. Illustration à Rennes, en Ille-et-Vilaine, un département, Martin Cadoré, qui totalise à lui seul 397 placements non exécutés.
Sur le bureau d'Étienne Kubica, juge des enfants à Rennes, les dossiers de 600 familles avec des enfants à protéger. Parmi elles, 200 cas critiques pour lesquels le juge a ordonné le placement d'un mineur en famille d'accueil.
On ne peut pas laisser un enfant qui est victime de violences sexuelles au sein de sa famille. C'est pas possible.
Sauf que les décisions de ce membre du syndicat de la magistrature ne sont parfois pas exécutées.
La situation, là, elle est dramatique. Les conseils départementaux n'ont pas les moyens de leur politique. Il manque également un certain nombre de familles d'accueil, il manque un certain nombre de places en foyer. Ça peut signifier pour un jeune garçon de 6 ans qui bénéficie d'une mesure de placement depuis 2 ans, confronté à une mère qui souffre d'une pathologie psychiatrique. Cet enfant-là reste malgré tout effectivement dans une situation de grand danger à son domicile familial.
En attendant le placement des enfants sur le terrain, des assistantes sociales comme Hélène Janto suivent les familles.
On bidouille avec les moyens du bord, on va au domicile très régulièrement, sauf que si nous-mêmes qui sommes censés appliquer la loi, on n'est plus en mesure de l'appliquer. On a des familles qui finissent par aussi fermer la porte à nos services.
L'assistante sociale syndiquée à Sud décrit des équipes qui se sentent impuissantes.
Il y a des effets très directs. Hein. Nous, on a des collègues qui tombent malades, qui sont en arrêt de travail, qui ont du mal à revenir, certaines qui ne reviennent pas.
Résultat des problématiques de recrutement dans le secteur qui alimente les difficultés à appliquer les décisions des magistrats.
Deux morts dans une fusillade hier à Sevran, en Seine-Saint-Denis, des faits qui interviennent moins de 48 heures après une autre fusillade qui a tué un homme et fait plusieurs blessés dans cette même ville, sur fond de trafic de drogue, précisent les autorités. Règlement de compte privilégié ce matin à Marseille après la mort d'un adolescent de 17 ans hier, peu avant minuit, dans le 13e arrondissement de la ville. Une enquête est ouverte par les autorités qui recherchent toujours les auteurs en fuite. Kenji Girac va mieux, c'est sa compagne qui le dit dans une interview au Parisien publiée hier, deux semaines après la blessure par arme du chanteur. Soraya Miranda dénonce des contre-vérités et dément, Inès Zegloul, les rumeurs qui courent au sujet de son mari.
Que les choses soient claires, Kenji ne m'a jamais fait de chantage au suicide. Voilà ce que martèle Soraya Miranda, prête à tout pour défendre son compagnon et son cocon familial. Elle qui n'a jamais pris la parole publiquement tient à rétablir certaines vérités. Ce sont ses mots, notamment sur les détails de sa vie privée, divulguée il y a quelques jours par le procureur de la République. Des révélations faites, selon elle, sans son accord. Alors Soraya Miranda est-elle victime de violences psychologiques? Je n'en ai jamais subi. Il est incapable de faire du mal à qui que ce soit, sauf finalement à lui-même, maintient-elle sans plus de détails. Le chanteur regretterait en tout cas son geste en pleine convalescence aux côtés de sa fille et de sa compagne qui souhaite désormais plus que tout retomber dans l'anonymat.
Premier déplacement en Europe depuis la crise du Covid pour Xi Jinping. Le président chinois est arrivé à Paris hier, une visite d'état de deux jours avec en toile de fond la guerre en Ukraine, mais aussi les différents commerciaux qui opposent la Chine à l'Europe. Illustration avec le cognac, dont la Chine est le deuxième plus gros client. La filière est visée depuis janvier par une enquête chinoise sur une infraction supposée à la concurrence. Les producteurs de spiritueux redoutent, Pierre Bourgès, la mise en place d'une taxe particulièrement élevée sur les exportations.
Anthony Brun nous emmène dans ses vignes, toutes alignées sur près de 30 hectares. En 20 ans, il a acheté de plus en plus de terres, planté de plus en plus de vignes pour répondre à la demande mondiale. Alors cette menace de taxes sur les exportations en Chine l'inquiète.
Si on a des difficultés commerciales avec la Chine, ça peut être dramatique. Des ventes des 7 prochaines années sont déjà faites. Une baisse de vente parce que notre produit n'est plus concurrentiel, parce que trop cher, parce que taxé. On risque d'avoir du coup des productions qui ont été faites à l'époque qui ne seront pas utilisées. Donc une création de stock. Forcément, c'est de l'immobilisation financière. C'est un coût important.
Le risque, c'est de ne plus réussir à séduire les consommateurs chinois à cause des taxes, s'inquiète Florent Morillon, le président du bureau interprofessionnel du cognac.
Je ne vois pas un consommateur chinois qui payait tel type de cognac, 100 dollars par exemple, la payer 200 demain, ça serait impossible. Et donc ça veut dire que vous perdez le marché.
Alors il attend beaucoup de cette rencontre entre les deux présidents.
J'espère bien sûr une issue favorable, c'est de convenir que en fait cette enquête anti-dumping n'a pas lieu d'être.
Le marché chinois représente 25% des exportations de cognac dans le monde.
J-2 avant l'arrivée de la flamme olympique en France, partie de Grèce à bord du BLM fin avril, elle est attendue mercredi à Marseille. Événement qui pourrait être gâché par une grève, celle des éboueurs. Depuis mardi dernier, la collecte des déchets est suspendue dans 9 arrondissements. Une situation, Romain Poiseau, qui agace les Marseillais mais aussi la métropole.
Des poubelles éventrées qui débordent sur les trottoirs et des rats qui prolifèrent. Les habitants de Marseille sont las de cette grève des éboueurs.
Très en colère parce que c'est surtout que tout ça, là, c'est des germes.
Ben, les rats qui sont déjà présents habituellement prolifèrent. Ça crée des conditions d'hygiène un peu douteuses.
À deux jours de l'arrivée de la flamme olympique dans la cité phocéenne, la CGT entend faire pression sur la métropole en demandant des augmentations de salaire, une réorganisation du temps de travail, revendication inacceptable pour Jean-Yves Sayac, délégué à la propreté à la métropole d'Aix-Marseille.
Ils travailleraient une heure de moins pour 300 à 400 euros de plus par mois. Pensez bien que c'est impossible pour la métropole. C'est inadmissible d'en arriver là quelques jours de l'arrivée du BLM.
La métropole qui a demandé à la préfecture de réquisitionner les éboueurs grévistes. Nouvelle rassurante pour Marie-Pierre Cartier, présidente de l'association Commerce Positif à Marseille.
Ça fait des mois qu'on prépare l'arrivée de la flamme, les JO. Bien sûr que c'est une évidence qu'il faut réquisitionner et puis nous laisser travailler.
Et en cas de réquisition, les employés qui refuseraient de retourner au travail sont passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
Et puis Toulouse en finale de la Champions Cup, c'est du rugby, tombé hier des Harlequins 38 à 26. Les Toulousains seront opposés aux Irlandais du Leinster. Ce sera le 25 mai prochain en finale de la compétition.
Et c'était le journal de Thibaut Texer. Avec les courses, tiens, le quintet, c'est où aujourd'hui?
C'est à Vichy, Apolline, 13h55, en direct sur RMC Découverte le 11. Giborwell est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 9, Follero Love, le 11 et le 9.
C'était donc le journal de Thibaut Texer. Et à 7h37, on prend la direction du 32-16 où nous attend Dimitri. Bonjour Dimitri.
Oui, bonjour Apolline.
Dimitri, Marseillais, chargé de prévention. Vous auriez une question pour Marine Le Pen?
Oui, alors très simplement, je voudrais savoir ce qu'elle pense du revenu minimum garanti.
Ouais.
C'est-à-dire que on nous rebat l'oreille avec il faut économiser un pognon de dingue et compagnie. Le pognon, j'ai une vague idée de où le trouver.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on supprime toutes les LED. Tous les, il y a, je sais plus combien d'aides, mais il y a un pognon de dingue qui part là-dedans entre les salaires, les gens qui sont chargés d'étudier des dossiers, les bureaux qu'il faut chauffer, entretenir, etc. On supprime tout ça et d'un autre côté, on donne des sous à tout le monde. On donne, mettons, 1000 euros à la louche, hein, faut calculer combien exactement, mais on donne des sous à tout le monde, il n'y a plus personne dans la misère, et je suis persuadé qu'à la fin, on gagne des sous.
Et c'était un peu, souvenez-vous, hein, le programme de quelqu'un comme... J'ai honte de pas trouver son nom, mais vous comprenez qu'à 7h38 là, Benoît Hamon qui parlait du revenu minimum.
Oui, il en avait parlé vaguement, et ça avait été très rapidement abandonné. Mais je pense que ça restait une bonne idée.
Donc vous proposez un revenu minimal, c'est-à-dire on supprime toutes les aides et on met ça à la place pour tout le monde.
C'est ça.
Et ni le plus salaire, ni moins, 1000 pour tous.
Bah 1000, ça se calcule.
Ouais.
Il faut voir combien, mais en gros.
Et quand
c'est l'idée,
on bosse, ça s'ajoute aux 1000 euros, c'est-à-dire c'est pas à la place.
On le touche même
quand on bosse, quoi.
C'est ça, le salaire, ça devient de l'argent de poche.
Dimitri, écoutez, franchement, voilà, vous défendez votre minimum garanti, revenu minimum garanti. Je pose la question tout à l'heure à Marine Le Pen. Vous n'hésitez pas, comme Dimitri, vous posez vos questions. Poussez donc la porte du 32-16. On est là pour vous écouter et pour que vous puissiez interroger aussi en direct. Hein, tout à l'heure, certains d'entre vous seront disponibles entre 8h10 et 9h pour l'interroger directement. N'hésitez pas. Il est 7h39.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Élie Corcien. Vous êtes président du Consistoire central de France. Vous représentez les institutions juives. Vous serez tout à l'heure à la table des assises contre l'antisémitisme, qui est un rendez-vous organisé par Aurore Berger. Elle m'en parlait d'ailleurs vendredi matin puisqu'elle était à mon micro. Tous les cultes y seront représentés. Est-ce que l'heure est grave ?
Oui, bien sûr que l'heure est grave, puisque les semaines et les mois se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire que les chiffres sont de plus en plus inquiétants. Vous avez vu le dernier sondage, la dernière étude.
Cette étude menée par l'IFOP, publiée hier par Le Parisien, qui montre un antisémitisme de plus en plus décomplexé, c'est-à-dire qu'il y a 35% des jeunes, qui considèrent qu'il est légitime de s'en prendre aux Juifs. En raison de ce qui se passe en Israël.
C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase devenue célèbre d'une présidente d'université aux États-Unis qui a quitté ses fonctions et qui a démissionné ensuite, quand on lui avait demandé si c'était normal de s'en prendre, est-ce qu'on pouvait expliquer qu'on s'en prenne à des juifs à l'université, elle avait répondu, ça dépend du contexte.
Ça dépend du contexte. C'était la présidente de Harvard et elle a démissionné ensuite parce que ses propos avaient évidemment choqué. Pour autant, on voit ce qui se passe dans les universités américaines. On va en dire un mot évidemment sur ce qui se passe ici, mais c'est ce chiffre, donc 35% des jeunes, des 18-24 ans, qui estiment normal, hein, c'est vraiment le mot utilisé, normal de s'en prendre à des juifs en raison de leur du soutien à Israël. Est-ce que vous redoutez la multiplication d'actes? Est-ce que vous disent les juifs de France?
Je ne la redoute pas puisqu'elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu puisque au cours du troisième trimestre 2023. Nous avons vu une explosion de 1000% des actes antisémites dans notre pays, en France. Donc on a bien vu que cette explosion des actes antisémites, elle est due à ce que vous avez appelé, effectivement, à juste titre, cette banalisation de l'antisémitisme, cette libération, non pas seulement de la parole. Déjà, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, et l'étude le montre très très bien, il y a une déferlante sur les réseaux sociaux d'antisémitisme, souvent sous couvert d'antisionisme. Donc Israël assassin, en faisant évidemment fi de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, du pogrom, le premier pogrom du 21e siècle qui a détruit d'ailleurs beaucoup de partisans du camp de la paix, hein, tout le sud d'Israël, tous ces kibboutz qui ont été dévastés et qui a entraîné Israël dans cette guerre qui est terrible. Évidemment que c'est une guerre terrible, mais c'était aussi ce que cherchait le Hamas. Le Hamas est le pire danger pour moi de la cause palestinienne. Mais ça, certains évidemment l'occultent. Et le Hamas a entraîné Israël dans cette guerre de façon terrible.
On vous sent non seulement inquiet, mais j'allais dire, et je le ressens sur ce plateau, presque triste.
Je suis triste et je suis en colère face à une certaine désinformation qui a lieu. Oui, il y a une guerre qui est terrible. Et nous sommes évidemment tristes parce qu'on est des citoyens, nous sommes français, nous sommes épris des valeurs qui sont les nôtres, liberté, égalité, fraternité. Évidemment que je suis triste de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, de voir cette guerre dans laquelle Israël a été amené, de voir ses morts, évidemment, que ce soit à Gaza, que ce soit évidemment ces familles en Israël qui attendent le retour des otages, 130 otages, des enfants de 1 an, de 4 ans, des femmes et des hommes, des personnes âgées qui sont toujours détenues par le Hamas, dont aucune ONG n'a aucune nouvelle parce que personne aujourd'hui ne s'en occupe et qu'on en parle de moins en moins. Je pense à toutes ces familles là-bas qui sont des deux côtés aujourd'hui dans le traumatisme. Mais ce qui me gêne, c'est de voir qu'en France, un parti notamment d'extrême gauche, LFI, utilise ce qui se passe à 4000 km d'ici pour en faire le cœur d'une campagne électorale et pour essayer d'instrumentaliser cela. Et cet antisionisme féroce, virulent, qui s'attaque même à la survie de l'État d'Israël, ça rejaillit sur les Français juifs.
Élie Korchia, ces universités, peut-être même ces lycées, il y a un certain nombre de lycées qui appellent à des blocages ce matin en soutien à ce qu'il se passe à Gaza. Quel regard vous portez là-dessus ?
Je porte simplement une parole claire. On a toujours été pour le débat, pour le contradictoire. Le débat, il est important. Israël est la seule démocratie sur place au Proche-Orient.
Et où de nombreuses manifestations ont encore eu lieu.
Il y a des manifestations
anti-Netanyahou.
Mais évidemment, ce qui se passe en Israël, c'est le cœur même de la démocratie et la société civile. A eu un rôle extraordinaire depuis le 7 octobre. Mais il ne faudrait pas qu'ici, en France, sur notre territoire, en France, cette haine que certains essayent d'exporter, cette haine d'Israël, en gommant complètement ce que fait le Hamas et la détermination d'Israël à sa survie, en passant par le combat contre le Hamas, il ne faudrait pas que cette détestation d'Israël, eh bien, ça puisse entraîner, comme on le voit actuellement, une hausse de l'antisémitisme.
Élie Korchia, Élie Semoun, l'humoriste, a porté plainte pour des menaces très graves. Il dit « Je ne comprends pas que depuis le 7 octobre, je sois à ce point menacé par des propos et des menaces prises très, très au sérieux. » Il y a eu aussi Marco, on se souvient, cet homme juif sortant d'une synagogue dans le nord de Paris qui s'est fait littéralement tabasser. Il avait d'ailleurs témoigné, on s'en souvient, un témoignage poignant sur BFM TV et RMC. Celui qui a tabassé Marco a été jugé. Il a écopé de plusieurs années de prison ferme. Il y a donc une réponse qui, pour vous, est à la hauteur aujourd'hui ?
Oui, il y a une réponse de l'État. Vous savez qu'on avait un véritable problème, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des suites, des plaintes, il y a vraiment un suivi. Et encore, vous avez vu que dans l'étude, beaucoup de personnes qui subissent ces actes d'antisémitisme
ne déposent pas plainte et préfèrent raser les murs parce qu'ils ont peur. Et d'ailleurs, Élie Semoun lui-même raconte dans les colonnes du Parisien qu'il a mis beaucoup de temps avant d'oser décider aller porter plainte, ne voulant pas forcément que ça se sache, ne voulant pas en faire trop état. Et c'est ses proches qui lui ont dit « Là, t'es vraiment menacé, t'es vraiment en danger, faut que tu y ailles. »
Je pense qu'il faut toujours déposer plainte parce qu'il ne faut pas accepter qu'on puisse être dans notre pays, dans un pays où les Juifs ne se sentent plus en sécurité. Donc il faut déposer plainte et il faut que la réponse de la justice soit à la hauteur du fléau que nous vivons actuellement.
Élie Korchia, Marine Le Pen répondra à mes questions tout à l'heure de 8h10 à 9h. Qu'est-ce que vous poseriez comme question à Marine Le Pen, vous ?
Écoutez, moi, je n'ai pas de questions aujourd'hui. En plus, nous sommes en période d'élections politiques, avec des élections européennes. Je n'ai pas de questions à poser. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tous les partis politiques puissent combattre cet antisémitisme à travers l'antisionisme. Et il faut le reconnaître aujourd'hui, le vrai danger aujourd'hui sur cette thématique-là, il vient d'une partie, je dis bien d'une partie de l'extrême gauche et notamment d'élus de LFI qui sont en train d'allumer des braises, notamment en mettant Rima Hassan, une personnalité comme Rima Hassan, dont je n'ai pas besoin
Hier soir était l'invité voilà, de Benjamin Duhamel. Exactement. Qui l'a notamment interrogé sur la question du génocide.
Septième de la liste aux européennes et qui ne fait sa campagne non pas sur les thématiques de la France au sein de l'Europe, mais par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient.
Et effectivement, elle avait du mal à accepter l'idée que le génocide pouvait être notamment le génocide des Ouïghours. Elle refusait de répondre à cette question-là qui avait été posée par Benjamin Duhamel.
Un dernier mot. On commémore depuis hier soir et aujourd'hui Yom HaShoah.
C'est la journée du souvenir des victimes.
Du souvenir des victimes et en mémoire aux héros de la Shoah. Quand on voit le détournement, la falsification de l'histoire visant à faire d'un pays Israël qui se défend suite au pogrom du 7 octobre, un pays qui aurait voulu faire avoir une intention génocidaire, ça c'est une falsification d'histoire aussi qui est inacceptable et qui est portée par certaines personnes qui ne se rendent pas compte qu'en jouant sur cette thématique contre l'histoire et la vérité historique, ça entraîne aussi une augmentation de l'antisémitisme.
Merci Élie Corchia d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central de France. Merci à vous. 7h50 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Je vous explique quels sont les enjeux de la visite du président chinois en France.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles avec la fin annoncée des chiffres et des lettres.
Le compte est bon pour le plus ancien jeu télé français, né en 1965, d'abord sur le RTF, sous le nom Le mot le plus long, avant de devenir Des chiffres et des lettres en 1972, diffusé quotidiennement pendant plus de 50 ans, avant de passer le week-end il y a 2 ans, sans réellement retrouver son public, ce qui a conduit donc France Télé à annoncer cet arrêt définitif à la rentrée prochaine, animé successivement par Patrice Lafont, Laurent Cabrol, Laurent Romeschko. Ce sont des milliers de candidats qui se sont succédés, avec évidemment quelques extraits restés cultes.
Philippe en 7 lettres.
Souple.
Et ouais. Axel.
J'ai pas trop autre chose que salope.
Ah.
C'est valide, je crois. Je crois
oui,
que ça marche.
C'est un joli 7 lettres. Le jeu est donc devenu culte au fil des années. Il s'est exporté dans des dizaines de pays, a donné lieu à des dizaines de parodies, notamment de la part des inconnus. On vous les recommande sur YouTube. Et si le jeu disparaît aujourd'hui de la télé, il continue évidemment de vivre à travers les centaines de clubs qui existent à travers toute la France.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54, expliquez-nous Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Le numéro 1 chinois est arrivé en France hier pour une visite de 2 jours. Xi Jinping et Emmanuel Macron vont insister sur les liens particuliers qui unissent la France et la Chine.
Oui, des liens qui datent de 60 ans puisque c'est en 1964 que la France a été le premier grand pays occidental à ouvrir une ambassade à Pékin. Jusqu'à là, c'était la Chine de Taïwan qui était reconnue. Le général de Gaulle, à l'époque, a voulu faire preuve de pragmatisme. Il voulait reconnaître le monde tel qu'il était et donc reconnaître les 800 millions de Chinois, même s'ils étaient dirigés par un communiste, Mao. 60 ans plus tard, les Chinois n'ont pas oublié. Ils veulent garder une relation spéciale. Xi Jinping a choisi la France pour son premier voyage en Europe depuis 5 ans. Il n'était plus revenu depuis la crise du Covid. Et Emmanuel Macron lui a choisi de faire un geste. Il va inviter demain le président chinois dans un lieu qui lui est cher, la station de ski de la Mongie dans les Pyrénées, et en particulier un restaurant du col du Tourmalet. C'est là qu'Emmanuel Macron passait une partie de ses vacances quand il était enfant. De la même façon, Xi Jinping avait invité Emmanuel Macron à Canton, là où lui aussi a grandi.
Ces signes d'amitié ne cachent pas qu'il y a quand même des sujets qui fâchent.
Et le premier, c'est l'Ukraine. La Chine n'a jamais condamné la Russie pour son invasion de l'Ukraine et Pékin défend l'idée de négociation, ce qui permettrait à la Russie de garder les territoires qu'elle a conquis. Mais ce matin, dans une tribune au Figaro, Xi Jinping affirme vouloir œuvrer avec la France pour résoudre la crise en Ukraine. C'est en réalité une déclaration d'intention. Il y a peu de chances que les lignes bougent. Xi Jinping est bien du côté de Vladimir Poutine et il le prouvera d'ailleurs bientôt en recevant le président russe à Pékin.
L'autre sujet qui fâche, c'est l'économie.
Et en particulier les subventions que l'État chinois verse à plusieurs secteurs de l'économie. Par exemple, à l'industrie automobile, subventions qui permettent aux Chinois de produire des voitures électriques bien moins chères que les nôtres. C'est un des combats de la présidente de la Commission européenne et Emmanuel Macron a donc invité Ursula von der Leyen à venir dès ce matin en discuter directement avec le président chinois à l'Élysée. L'Europe a ouvert une enquête sur cette question des voitures électriques. Les Chinois ont riposté en ouvrant eux aussi une enquête sur les exportations de cognac, ce qui bien évidemment vise la France. Le président chinois, en tout cas celui qui est en France aujourd'hui, c'est bien le plus puissant de l'histoire récente du pays, certainement le plus puissant depuis Mao Tse-Tung. Sa pensée est inscrite dans la charte du Parti communiste, ce qui signifie qu'elle est enseignée à l'école. Xi Jinping est au pouvoir depuis 11 ans, réélu l'an dernier pour un 3e mandat, mais en réalité en Chine, tout le monde pense qu'il est président à vie. Il est aujourd'hui un des hommes les plus puissants du monde, le dernier empereur qui règne sur 1,5 milliard de Chinois.
Merci Nicolas pour ces explications. Il est 7h57, vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal. Et ne manquez pas donc à partir de 8h10 tout à l'heure, 8h10, Marine Le Pen face à face. Et vous, le nouveau rendez-vous, c'est vous qui posez vos questions à mes côtés. Et vous pouvez nous appeler encore, il est tout au temps au 3216.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.